À voix nue, Bruno Meyerfeld, cette semaine avec
Sébastien Salgado, photographe, et avec ma femme, on plante beaucoup d'arbres.
Deuxième épisode, un monde en noir et blanc. Bonsoir Sébastien Salgado. Boa noite.
Boa noite. Bonsoir.
Merci de nous recevoir à nouveau chez vous, dans votre atelier du Canal Saint-Martin, pour cette série d'À voix nue. Alors hier, vous nous avez parlé de votre vie avant la photographie. Et ce soir, j'aimerais que nous sautions à plein pied dans cette passion qui est la vôtre depuis lors. Et j'aimerais commencer en vous présentant une photo. Alors je vous l'attends. C'est un cliché que vous connaissez bien, puisque vous en êtes l'auteur. Et j'aimerais que vous nous la décriviez et que vous nous racontiez son histoire.
Ah, pour la décrire, c'est facile. C'est Lélia, ma femme, assise au bord de la fenêtre dans une maison qu'une famille des grands amis à nous nous avait prêtée à Mantonnet-sous-Clermont, en Haute-Savoie. Et c'est la première photo que j'ai faite dans ma vie.
En 1970, je crois.
En juin 1970, et on achète l'appareil. Le monsieur nous a mis un film en Kodachrome dans l'appareil, et j'ai fait cette photo. Après cette photo, on est allé jusqu'au bout du film, mais après on était bloqué. Je ne savais pas enlever les films. Il fallait étudier tout le petit catalogue pour voir qu'il y avait un petit bouton en bas de la caméra qu'on passait pour pouvoir rebobiner la pellicule. Donc, cette photo représente vraiment le début de ma photographie.
Elle vous émeut, cette photo, Sébastien Salgado, aujourd'hui? C'est une photo en couleur. Votre travail a été pour l'essentiel en noir et blanc.
C'est une photo en couleur. J'ai essayé de faire de la photo en couleur. J'ai essayé pendant longtemps, et pendant longtemps, j'ai photographié aussi en couleur. J'ai travaillé pour des agences, Sigma, Gamma, Magnum. Et à l'époque, les magazines commandaient en couleur, ils ne commandaient pas en noir et blanc. Parce que c'était le début des grandes offsets, et tous les systèmes de publicité que les magazines avaient, c'était en couleur. Et donc, les pages, c'était en couleur. Mais j'ai jamais compris très bien la couleur. Au contraire, la couleur me gênait beaucoup. Je savais, comme on travaillait avec des films qui devenaient des diapositives au développement, et c'est des films avec très haut contraste. Je savais que les rouges seraient des rouges très forts, que les bleus, des bleus très forts, les verts très foncés. Et donc, j'ai resté concentré sur l'idée de la restitution de l'image et ça me détruisait complètement la concentration que j'avais besoin pour réaliser mes images. Et par contre, quand je faisais du noir et blanc, c'était très facile parce que toutes ces gammes de couleurs, j'allais transformer en gamme de gris. Et là, j'étais en paix. Je pouvais concentrer sur la dignité des gens que j'ai photographiés, sur la personnalité, surtout, je n'étais pas inquiet de tout de la restitution. Deuxième point, que ça me gênait beaucoup la couleur, c'est qu'en faisant des noirs et blancs, je faisais des branches de contact et j'avais ma séquence avec moi tout le temps. Et quand je faisais de la couleur, j'avais un film qui venait monter dans des petits caches, en diapositive, on allait sur une table lumineuse, et là, j'ai choisi quelques images, que c'était les bonnes et les autres, j'abandonnais. À ce moment, je perdais ma séquence. J'avais plus une histoire. J'avais des bribes d'histoire. Et noir et blanc, j'avais une histoire complète. Et donc, troisième point, c'est que les couleurs, c'était très cher à développer. Il fallait payer un labo externe. Et tandis que le noir et blanc, j'ai développé moi-même mes pellicules. Je la copiais moi-même. C'était mille fois plus facile. Donc, le noir et blanc, pour moi, c'était mon identification totale avec la photo.
Donc, après avoir plaqué votre carrière de fonctionnaire international, Sébastien Salgado, Vous commencez à travailler un temps comme photoreporter freelance. Vous prenez des photos d'actualité, de sport, de mariage, pour la petite presse française, souvent chrétienne d'ailleurs. Puis vous décidez de lancer votre premier grand projet, Autres Amériques, une véritable odyssée à travers l'Amérique latine, votre continent, au Brésil, au Mexique, en Équateur et en Bolivie, qui vous occupera 7 ans, de 1977 à 1984. Alors, racontez-nous la genèse de ce projet, vous qui êtes alors exilé à Paris depuis 1969, Sébastien Salgado.
J'ai commencé à travailler comme photographe indépendant. On avait ce qu'on appelait la petite presse en France. Mais la petite presse, c'était une énorme presse. On avait la Vie catholique qui tirait 550 000 exemplaires par semaine. Elle tirait plus que les points qui venaient de naître. Elle tirait plus que l'Express. On avait Femme pratique qui tirait 1 200 000 exemplaires, tirait plus que Paris Match. Les SOS de Secours catholique tuaient 1 200 000 exemplaires. Donc, c'était une grosse presse à la fin. Et j'ai commencé à travailler pour cette presse. Je ne savais pas très bien comment faire pour travailler. Un jour, je suis allé à la Vie catholique, j'ai frappé à la porte, ils ont ouvert, j'ai dit, je voulais voir le service photo, et j'avais un peu peur. Les gens étaient très gentils, ils m'ont reçu. J'ai dit, écoute, je commence la photo. Je voulais faire des photos pour vous. Ils ont rigolé. Ils ont dit, écoute, on n'a pas de photographe qui fait des photos pour nous, mais on va faire une chose avec vous. On a notre sommaire de la prochaine semaine. On va vous donner. Et regardez, si vous avez des photos dans ce sommaire, amenez. Si elles sont bonnes, on les publie. J'ai regardé. J'avais rien. Mais il y avait beaucoup de sujets sociaux. On avait des bidonvilles à Nanterre. On avait beaucoup de problèmes avec l'immigration. Et moi, j'étais un immigrant. Et donc, j'ai parti photographier les immigrants. Une semaine après, j'étais là avec mes photos. Ils ont bien aimé. Ils ont commencé à publier. J'ai commencé à avoir une relation. J'ai commencé à y aller. Et donc, ça commençait à aller bien. J'ai bien aimé ça. Jusqu'au jour que j'ai eu une opportunité de commencer à travailler pour une agence de presse.
Sigma, je crois.
L'agence Sigma. Tu vois, Sigma était formé, je commence à travailler, et je pars pour Sigma à travailler au Portugal. C'était la révolution des ouvriers au Portugal. Dès là, je pars au nord de Mozambique, qui commençait avec une pression énorme des forces de Frelimo, des fronts de libération de Mozambique, contre l'armée portugaise. Et c'était une vieille guerre qui se passait là-bas, mais comme ça bougeait au Portugal, les Frelimo ont mis la pression. Et j'ai parti là-bas et j'ai commencé à travailler d'une manière très forte pour Sigma. Et je n'ai pas trop aimé parce qu'il fallait travailler sur des petites bribes d'histoire, des petits bouts d'histoire. Quand on était à Paris, il fallait faire des conseils des ministres, il fallait faire des portraits, des vedettes, des choses. Ça n'avait rien à voir avec les rêves des photographes que j'avais dans la tête. J'ai quitté Sigma, j'ai redeviens indépendant, j'ai connu des photographes de Gama, des SIPA, quand j'étais au nord de Mozambique. Et Jean-Claude Francolon, qui était un très très bon photographe de Gama, part au Vietnam. Il devait rentrer pour partir en Angola. Il était blessé au Vietnam. Il a pris une rafale de mitraillettes sur les jambes. Et donc, Jean-Claude arrive blessé à Paris. Il dit à Floris de Bonneville, le rédacteur en chef des Gamma, les photographes, je voulais qu'ils partent à ma place en Afrique, parce que la guerre s'installait en Angola, c'est Sébastien Salgado. Là, il m'appelle, et je pars pour Gamma, et je rentre à Gamma. J'aimais beaucoup Gamma. J'ai fait énormément d'histoires à Gama. J'ai passé 4 ans à Gama. C'était un groupe de jeunes photographes parce qu'il avait une scission dans Gama. C'est le groupe noyau dur des photographes de Gama qui avait parti et fondé Sigma. Et à Gama, ils ont pris un groupe de jeunes photographes, moi inclus. Et donc, on était un groupe de jeunes, c'était intéressant, on faisait. C'était pour moi une école. Je peux dire que j'étais formé en photojournalisme dans l'école Gamma, par un grand directeur d'école qui s'appelait Floris de Bonneville, rédacteur en chef incroyable. Arrivé un moment, après quelques années, c'était comme une école. Quand on finit une école, j'ai senti que j'avais fini mon école. Ou on reste à l'école, on devient prof de l'école, ou on quitte l'école. Et j'ai commencé à vouloir quitter Gamma parce que ça ne me plaisait plus de travailler dans des petites histoires. Je voulais travailler dans une histoire où je me sentais complètement intégré à elle. Et c'était un moment que le Brésil commençait à me manquer beaucoup. On était réfugiés en France depuis beaucoup d'années déjà. On ne pouvait pas retourner au Brésil depuis 1969. On avait perdu notre passeport. On avait été obligé de faire un procès contre le gouvernement brésilien pour obtenir un passeport de retour. J'ai obtenu la nationalité française parce que ça fait certain temps. J'ai demandé pour la nationalité française. Mais je ne pouvais pas retourner au Brésil. J'avais une envie fou de mon Amérique latine. Et j'ai pensé, je vais commencer à voyager dans les pays périphériques au Brésil, en Uruguay, en Bolivie, au Pérou, en Équateur. Et je vais commencer à voir l'Amérique latine. Ce n'est pas très différent du Brésil. C'est là que ça a commencé mon projet de photographie en Amérique latine. J'avais un rêve. Quand j'étais gosse au Brésil, j'écoutais parler de la Bolivie. La Bolivie, c'était quelque chose d'incroyable. Il avait une armée de paysans, il avait une armée de miniers, des mecs qui travaillaient dans les mines d'étang en Bolivie. Il avait une armée régulière, il avait des bagarres entre tout ça. Il avait toute cette nation indigène très forte sur les Andes. Il avait tout ce qu'il avait requesté de la culture Inca. Et je voulais y aller. Et là, j'ai m'organisé. Quand j'étais proche de la fin à Gamma, de commencer à travailler dans des projets à plus long terme. Je ne pouvais pas aller et revenir, je n'avais pas d'argent suffisant, je ne gagnais pas beaucoup d'argent à Gamma. Donc, je me rappelle, mon premier voyage, Newsweek m'a payé un voyage en Équateur pour faire une histoire. J'ai parti, comme il me payait un billet d'aller-retour, mais je suis resté 4 mois. Parce que je ne pouvais pas retourner. Dès là, j'ai parti en Bolivie, j'ai venu au Pérou. Et là, j'ai senti que j'avais une grande histoire latino-américaine. Et j'ai continué à travailler. Et dès là, j'ai parti au Guatemala, j'ai parti au Mexique, j'ai parti quand c'était possible retourner au Brésil, parce qu'à la fin de 1979, on a eu l'amnistie politique et on a pu retourner au Brésil. Là, j'ai inclus le nord-est du Brésil principalement, dans les sujets photographiques que je faisais sur l'Amérique latine.
Alors, Sébastien Salgado, vous l'avez dit, pour Autres Amériques, vous vous rendez dans votre pays, le Brésil, en 1981, après 12 ans d'exil.
80.
En 1980.
81 aussi, 82, 83.
Alors, vite, je crois, vous vous emparez de la voiture de votre sœur, c'est ça?
Oui.
Et vous parcourez l'intérieur aride et misérable du nord-est brésilien, oui, ce qu'on appelle le sertão. Et alors j'aimerais vous présenter une autre photo que vous avez prise à l'époque. On y voit un enfant, un enfant décédé dans son cercueil, les yeux ouverts. Et j'aimerais que vous nous expliquiez l'histoire de cette photo.
Écoute, cette photo était faite à Juazeiro do Norte. C'est un endroit considéré un endroit sacré pour les paysans du nord-est du Brésil, parce qu'ici, avec qui un prêtre s'appelait Padre Cícero, et il a resté comme une espèce d'encens populaire pour les gens. Et donc, tous les gens qui meurent dans la région, ils viennent pour recevoir la bénédiction dans la petite église de Juazeiro do Norte. Après, on va les enterrer. Cette photo est intéressante parce que l'enfant a les yeux ouverts. Quand un enfant très jeune meurt, et il est pur, mais il amène avec lui les péchés originels. Et les gens imaginent qu'il ne va pas arriver immédiatement au ciel. Il va planer dans une région qu'on appelle Limbo.
C'est l'âme.
C'est avant le purgatoire. Et la seule manière que cet enfant aura de trouver le chemin de Dieu, le chemin du ciel, c'est d'avoir les yeux ouverts. Et donc, il meurt, il faut que ses yeux soient ouverts pour qu'il trouve son chemin vers Dieu. Et donc, c'est un peu l'histoire de cette image.
Et dans le nord-est brésilien, Sébastien Salgado, vous voyez également la misère brésilienne. Vous voyez notamment des colonnes de migrants partir du sertão, de cet intérieur aride, vers les villes de la côte. Que ressentez-vous alors?
Une grande partie de l'histoire brésilienne de ma région, qui c'est le centre sud du Brésil, c'était faite par des paysans qui ont quitté le nord-est du Brésil. La population et la concentration de population est relativement forte au nord-est du Brésil. C'est une région très aride. Si on regarde bien la carte de l'Amérique du Sud, avec la côte brésilienne qui fait le principal de la côte atlantique, si on l'approche de la carte de l'Afrique, une rentre dans l'autre. Ce continent était un seul continent il y a 150 millions d'années. Quand il y a le partage des continents, l'Antarctique a parti dans son direction, l'Afrique de l'autre, l'Amérique latine a resté de l'autre. Mais si on regarde bien le nord-est du Brésil, il coïncide avec les Sahel. C'est exactement les Sahel brésiliens, le nord-est brésilien. On a une région comme au Sahel d'humidité, que c'est la région proche de la côte. Après, on a une région très aride, très sèche, qui correspond au Sahel africain, en étant le sertão brésilien. Et là, on a une pression des populations très forte. Par exemple, toute l'occupation de l'Amazonie au début du XXe siècle s'est passée avec des populations qui partaient du nord-est, qui étaient amenées en bateau à Manaus. De Manaus, on les amenait pendant 6 mois, 1 an, en naviguant sur des fleuves amazoniens pour commencer l'extraction de caoutchouc, de la EVA brésilienne, qui a fait le début de l'industrialisation de caoutchouc au monde, est venue par des paysans du nord-est du Brésil qui partaient en Amazonie. Et en même temps, on partait au sud du Brésil. Par exemple, le président Lula. Lula, il est parti à l'arrière d'un camion qu'on appelait un pau de arara. Arara, c'est l'ara.
Un perchoir à perroquet.
Un perchoir à ara, qu'on appelait ce camion, avec des dizaines de personnes à l'arrière d'un camion. Ils mettaient des semaines et des semaines sur des routes pas goudronnées, des routes en terre, pour arriver à Minas Gerais, dans mon état, pour arriver à São Paulo. Et les grands développements économiques du Brésil à São Paulo étaient faits basiquement par des immigrants du nord-est. Et donc, quand je suis venu là-dedans, je connaissais cette histoire. Je connaissais ici, il avait une histoire incroyable que j'ai commencé à photographier quand j'ai photographié le nord-est avec les Ligas Camponesas, qui c'est les grands mouvements des paysans, des luttes pour la terre qui a donné origine au mouvement des paysans sans terre au Brésil. Et donc, j'ai travaillé, j'étais une personne de gauche, j'ai entré principalement dans ces communautés du nord-est du Brésil, à travers des organisations de l'Église catholique liées aux évêques de la théologie de la libération, à qui je connaissais, qui c'était à la fin beaucoup de gens que j'ai connus à Paris, qui étaient réfugiés à la même époque, et qui là-dedans ils m'ont aidé énormément à avoir accès à toutes ces communautés de paysans au nord-est du Brésil.
Alors on sent, Sébastien Salgado, votre œil d'économiste quand vous parlez du nord-est. Mais très vite, vous développez un style, un œil d'artiste sur cette réalité sociale. J'aimerais que nous parlions un peu de votre style, justement, et de vos références. Et l'une de vos références, c'est Géricault, le peintre Géricault. Pourquoi?
J'adore les radeaux de la Méduse. Je trouve que Géricault a fait une peinture sublime où il y en a tout là-dedans. La beauté de la nature, avec ce nuage incroyable, avec une mer incroyable. Il y a la détresse humaine, il y a la résistance de la survie, il y en a tout dans cette peinture de Géricault. Et donc, elle me touche, elle m'a touché au fond de mon cœur, toujours. Mais il faut dire que la photographie, elle est résultat d'un grand héritage. Je vous ai dit dans l'émission d'hier que je suis né dans les montagnes du Brésil, que j'allais voir l'arrivée des pluies avec mon père et que j'ai fait un peu mon univers visuel en fonction de ces lumières incroyables qui se ressemblent énormément aux lumières de Géricault dans les montagnes de Minas Gerais. Minas Gerais, c'est l'état le plus baroque du Brésil. C'est là que le baroque portugais est né. Et donc, si tu regardes bien ma photographie, elle est profondément baroque.
Elle est profondément sacrée. Parfois, il y a une lumière dans vos photographies, Sébastien Salgado, que beaucoup ont qualifié de divine, avec des personnages qui rappellent parfois Moïse, Jésus, la Vierge Marie, les bras en croix. Est-ce qu'il y a une dimension sacrée dans votre photographie ? Une dimension religieuse.
Je ne suis pas religieux, je ne suis pas même croyant. Vous savez, j'ai utilisé possiblement les mêmes éléments que la religion a utilisé. La planète, la beauté de la planète, la force de la nature, les pouvoirs des gens. Qu'est-ce que c'est la beauté des gens dans un livre religieux ? C'est la dignité des gens, c'est la manière qu'on les parle, des personnages. Et moi, j'ai toujours essayé de trouver cette beauté dans ma photographie. Ce n'est pas une beauté physique, c'est une beauté intrinsèque aux gens. C'est le pouvoir de la dignité. C'est là que j'ai essayé, en allant avec ma photographie, d'aimer les gens que j'ai photographiés, de les respecter à fond et de voir si mes images pouvaient amener ces pouvoirs qui ont les gens et ces pouvoirs qui a la planète, parce qu'une image est composée de la forme, les premiers plans, ce qu'on veut montrer en premier lieu, mais elle est composée aussi de la contre-forme, du fond qu'il faut qu'il aille un pouvoir énorme pour que l'image aille un pouvoir complet.
Et vous dites souvent, Sébastien Salgado, ce n'est pas moi qui prends la photo, ce sont les gens qui me la donnent.
En réalité, c'est ça. Écoute, pour photographier les gens, il faut aimer les gens. Pour faire des histoires, il faut qu'on ait une énorme identification avec ces histoires. Si on n'a pas une identification, c'est des histoires qu'on va mettre longtemps à faire, on ne résiste pas. On ne peut pas rester, tu vois. Et donc, il faut qu'on ait une identification énorme avec les lieux qu'on y va, l'histoire qu'on a choisi de faire, et respecter et aimer les gens. À ce moment, j'ai découvert une chose très intéressante dans la photographie, c'est que on est un animal grégaire. On est fait pour vivre en groupe. Et quand j'arrivais seul dans une communauté, j'étais assimilé, j'étais accepté par la communauté, je devenais partie de ces communautés. Et en étant partie d'une communauté, il fallait que je respecte à fond la communauté, que je sois vraiment partie d'elle. Et donc, à ce moment, j'étais tellement intégré que je recevais tout. Je recevais toutes les images. Je m'appelle une fois, j'ai fait en France un livre sur la SNCF avec la CGT. Sur les travailleurs de la SNCF. J'ai tourné toute la France. J'ai fait un livre qui s'appelle Les Cheminots. Je m'appelle que j'étais dans une petite gare au Massif Central qui s'appelle La Mativie. Et à un moment, j'ai photographié, j'avais un gars de la CGT avec moi. À un moment, il est venu vers moi. Il fait, Sébastien, tu as remarqué que toute la gare travaille pour toi. Elles sont liées à ton appareil photographique. Regarde, du gars qui conduit la locomotive, au gars qui nettoie les trains, au gars qui balaye, tu vois, la gare. aux passagers qui descendent, tout est intégré à ton image. Si on est complètement concentré, intégré à son sujet, le sujet est toi-même, toi-même est le sujet. Il y a une intégration que tu reçois tout, tu vois, du sujet.
Et vous dites aussi, Sébastien Salgado, dans la photo, seule la vitesse de déclenchement doit être rapide.
En moyenne, j'ai 1/150 de seconde pour faire une photo. Quand j'ai fait une exposition, comme j'ai fait l'autre jour, sur l'Amazonie, ici à la Philharmonie, peut-être 250 images, si je multiplie pour 1/150 de seconde, j'ai tout ensemble en seconde d'image, pas plus. Tu vois? Mais il faut une vie pour le faire. Il faut du temps pour concevoir, il faut du temps pour identifier, il faut du temps pour y aller, il faut du temps pour se faire accepter, il faut du temps pour connaître, il faut toute une vie, tu vois. Et donc, j'ai fait pas beaucoup d'histoires dans la vie. J'ai fait peut-être 10 d'histoires dans la vie, mais des grandes histoires constituées pour des parties d'histoire qui elles-mêmes pourrait être une histoire à part, mais qui faisait partie d'une histoire majeure, d'un concept majeur. Et donc, je crois que c'est ça ma vie de photographe.
Il y a une phrase, Sébastien Salgado, que vous avez confiée en 1990 au journal Le Monde. Vous avez dit « Photographier, c'est comme marcher sur la lame d'un couteau ».
C'est exactement ça. Il ne fallait pas que je me coupe. Il ne fallait pas que je sois à gauche. Là, ça vaut rien. Il ne fallait pas que je sois à droite, il fallait que je sois. C'est la ligne de coupe d'un couteau, l'essentiel. Tu vois, absolument, il faut que ce soit un équilibre total.
Est-ce à dire qu'il y a, Sébastien Salgado, un danger à être photographe? Un danger, un risque de tomber, de se blesser?
Je ne crois pas. Vous savez, on parle de la photo comme la photo elle-même, comme la photo qui représente tout. La photo, ce n'est pas elle-même. La photo, c'est une façon de vivre. C'est une forme de vie. On n'a pas de danger de tomber de sa vie. Tu vois, on ne tombe pas de la photo. La photo, c'est la vie d'un photographe.
Alors, 1986, Sébastien Salgado, c'est la publication d'Autres Amériques. Un triomphe, un livre mythique. Mais sans attendre, vous débutez une nouvelle aventure, centré cette fois sur les travailleurs. Mais de cela, nous parlerons dans le prochain épisode. Donc, à terme moyen, à demain, Sébastien Salgado.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Laurent Macchetti, réalisation Guillaume Baldi, une série de Bruno Meyerfeld, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.